Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Depuis, Germain, un an et demi, deux ans, les invités en studio, en présentiel, se sont fait très, très rares. Il n'y en a pas eu beaucoup, à part Mathieu Roy, qui est tout le temps dans les parages.
Hein? On a été chanceux de l'avoir avec nous.
On a été chanceux. Mais là, l'invité qu'on a cette semaine, il est en studio pour une raison bien simple, c'est qu'il est en train de nous juger. Il est en train d'étudier le travail qu'on fait parce que c'est ce qu'il veut faire comme travail plus tard. Enfin, il a déjà commencé.
Et il a fait pas moins de quoi, 5-6 heures de route pour venir nous voir ici au centre-ville de Montréal.
Oui, exactement. Fait que on parle à Vincent Harvey et il y a déjà sa plateforme web sur YouTube. Ça s'appelle On roule au lac. Vous aurez deviné d'où il vient. Salut Vincent.
Bonjour Antoine. Bonjour Germain.
Salut Vincent.
Bon, alors Vincent, tu es avec nous aujourd'hui pour parler du métier de journaliste ou chroniqueur automobile. Moi, je préfère toujours dire chroniqueur automobile parce que du journalisme, c'est un
métier.
On
en fait aussi, mais on
en fait un peu, mais
on est dans la chronique.
C'est ça. Et évidemment, moi, la première question que j'ai pour toi, et toi, tu en auras pour nous aussi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce métier-là? Parce qu'il faut mentionner aux gens, excuse-moi, que tu as 18 ans.
En fait, j'ai toujours eu la passion de l'automobile, autant par mes parents qui ont un garage de mécanique que par juste être toujours dans le monde de l'automobile. Puis, veux pas, on voit les gens qui sont dans le métier, on voit qu'ils essaient plein de voitures. En fait, c'est des tripeux de chars à base.
Ouais.
Donc, c'est sûr que à partir de ce moment-là, moi, ça m'a vraiment donné le goût. Puis, j'ai toujours été un amateur, finalement, de médias. Donc, autant la radio que la télé. Donc, ça m'a vraiment, là, c'est quelque chose qui est venu me chercher, puis ça m'a donné le goût.
J'aime ça parce qu'il nomme, à 18 ans, les deux médias les plus traditionnels qui sont un petit peu à l'opposé des jeunes de 18, 20, 22 ans qui sont sur des plateformes
sur
numériques.
TikTok,
c'est ça.
Voilà.
Où j'ai bien de la misère à mettre le pied, là. Mais oui, c'est ça. Évidemment que le métier de journaliste automobile ou chroniqueur automobile a changé au fil des années et qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te contenter que de faire, par exemple, que de l'écrit dans un journal en papier. Parce que
très peu de gens qui
il fut une époque où c'était ça la règle.
Et il y a encore quelques personnes qui adoptent cette manière-là. On peut penser à Éric Lefrançois, à la presse, qui, lui, a ses chroniques hebdomadaires dans la presse exclusivement et s'en sort très bien depuis des années de cette manière-là. Plus en plus rare.
Des gars comme Éric, à l'échelle canadienne, tu comptes ça sur les doigts d'une main.
D'une seule main, oui.
Il y en a pratiquement plus, alors qu'à une certaine époque, c'était complètement autre chose. Vincent, tu as déjà commencé à faire de la chronique automobile. Explique-moi un peu ce que tu fais, toi.
En fait, comment ça fonctionne? Bien, tout simplement, j'ai deux types de chroniques que je fais, en fait, autant écrit sur mon site web ou ma page Facebook ou directement en vidéo. Je fonctionne avec...
C'est le moment de nommer ton site web puis ta page YouTube.
Ça apparaît au bas de l'écran.
C'est ça.
Donc, c'est onrouleaulac.com, donc ma nouvelle plateforme que j'ai créée. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'y vais avec les concessions dans ma région qui me prêtent des véhicules qui sont quand même... veux pas... Ils me permettent, en fait, de pouvoir essayer un véhicule.
Ils sont généreux avec toi, surtout à une époque où il n'y a pas d'auto en inventaire.
Ouais.
Exactement, c'est assez difficile, mais on fait avec ce qu'on a, finalement. C'est clair que j'ai vraiment la chance, finalement, d'être aidé par les concessions qui me donnent un coup de main, autant par ma région, finalement, de Chicoutimi, ou directement, là, de Québec, tu sais, BMW, qui ont pu me prêter des véhicules. Donc, un peu, toutes les concessions m'aident, finalement, à avancer dans ce métier.
Et toi, tu as une chaîne YouTube, donc tu vas tourner des vidéos avec les véhicules. Tu as une équipe qui est avec toi. J'ai vu des fois que tu as un collègue qui t'accompagne. Comment ça fonctionne de ce côté-là?
Exactement. Dans le fond, moi, j'ai une équipe de production. Donc, on est... j'ai mon monteur vidéaste là, qui est avec moi, qui est toujours là lors de la journée puis qui s'occupe de tout ce qui est montage vidéo. Ensuite, il y a moi qui m'occupe de tout ce qui est préparation avant l'émission. Donc, les recherches, le véhicule, c'est moi qui vais le trouver. Puis j'ai mon collègue là, qui va être là sur le tournage, qui va être avec moi finalement.
co-animer. Là.
Ouais, exactement.
Mais évidemment, tu fais ça par passion pour le moment. Il n'y a pas de revenus nécessairement qui sont associés à ça. Puis c'est pas évident d'aller chercher des revenus sur des plateformes numériques comme YouTube, Facebook non plus. Donc, comment est-ce que tu entrevois ton futur dans ce métier-là? Parce que j'imagine que tu jettes un regard sur tous ceux qui pratiquent le métier au Québec, puis il y a différentes façons de le faire, évidemment. Mais tirer son épingle du jeu aujourd'hui, c'est difficile, là.
Exactement, c'est assez difficile, mais lorsqu'on va chercher les bons points, puis qu'on va essayer d'aller chercher les meilleurs, en fait, qui sont actuellement en place, là, par exemple Antoine ou du côté, mettons, de RPM ou quoi que ce soit, ben on va aller chercher les éléments clés et à quel endroit les gens finalement ont pris étudier ou quoi que ce soit. Fait qu'on va je vais vraiment essayer d'aller chercher le plus d'éléments possible pour me permettre finalement de rentrer dans ce monde-là.
Puis, est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais qu'est-ce que ça prend comme étude, comme... background
parce que
pour
c'est
faire
pas
ça.
Nécessairement un chemin en ligne droite là,
y a,
loin
y a,
de là, là.
Je peux te dire parce que évidemment on se connaît tous dans le domaine.
Oui.
Il y a personne qui a pris le même chemin.
À peu près.
Il y a personne qui a pris le même chemin. Et ceux qui ont étudié en journalisme traditionnel dans le but de faire ce métier-là se rendent compte que tout ce qu'ils ont appris à l'école, mettez ça de côté parce que le métier c'est complètement autre chose.
Ouais.
Fait que c'est sûr que d'essayer de te baser sur de prendre des études là-dedans, c'est assez difficile.
Exactement, parce que comme tu l'as dit, il n'y a personne qui a la même étude. Il y en a que c'est en écriture, il y en a que c'est en langue, il y en a comme toi, c'est en business automobile, si je ne me trompe
pas. Exactement.
Il y en a qui n'en ont pas d'études aussi.
Oui. Ouais, des fois, ça paraît ça, mais bon, ça, c'est un autre sujet. mais non, c'est sûr qu'il y a des gens, écoute, Benoît Charrette, c'est un gars qui a étudié en éducation physique.
Oui, qui était enseignant.
Qui a été enseignant.
Oui. Daniel Ruffiange aussi a ce parcours-là avec le volet histoire. Il a été enseignant et c'est, je sais pas si on peut utiliser le terme, recyclé en journaliste automobile pour la deuxième portion de sa carrière. Donc, il n'y a pas de chemin linéaire comme je pourrais dire, si tu veux devenir électricien, ben, tu vas suivre ton cours en électricité, puis après tu deviens électricien, puis ça s'arrête là.
Tu sais, Jacques Duval, du plus loin qu'on puisse reculer, oui. Jacques Duval, c'est un disc jockey, c'est un animateur de radio, c'est un grand connaisseur de musique française.
Oui.
Aussi amateur de voitures et de courses automobiles qui l'a amené à faire une émission, mais à la base, il se dirigeait pas là-dedans. Denis Duquet, c'est un gars qui a couvert le sport olympique, qui a fait du ski. Alors, tu sais, les gens proviennent de partout dans ce milieu-là. C'est très fascinant de voir ça. Et peu de gens ont commencé en automobile, aussi drôle que ça puisse paraître.
C'est vrai.
Tu sais, moi, je veux dire, je suis un des seuls ma famille ne vient absolument pas du monde automobile, mais quand tu dis absolument pas, c'est absolument pas.
Tu as tout défriché par toi-même.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai développé cette passion-là très, très, très jeune. Puis je bouffais les livres puis les magazines parce qu'à l'époque, c'est tout ce qu'il y avait, là, évidemment. Mais j'ai commencé comme ça avec cette passion-là. Puis j'ai décidé d'aller étudier en business marketing automobile. Où ça allait me mener tout ça, techniquement, pour travailler pour un constructeur automobile ou pour un concessionnaire ou un regroupement de concessionnaires, je m'en allais là. C'était ça, la voie. Et puis, ben, est arrivé ce qui est arrivé. Et finalement, ben, même si j'avais fait quelques chroniques dans le journal étudiant au secondaire, qu'il y a juste moi qui lisais, ben, parce que, tu sais, une chronique automobile dans un journal étudiant au secondaire, quand...
Oui, c'est approximatif.
Tu sais, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins d'étudiants qui avaient des voitures en secondaire 5 qu'aujourd'hui. Tu sais, les stationnements étaient un peu plus vides à l'école.
Clairement. Mais en même temps, si on veut écrire, il faut commencer par... écrire, justement.
Ouais.
Peu importe où tu écris, même s'il n'y a personne qui te lit, tu dois commencer à écrire si un jour tu veux écrire.
Ah, c'est clair que, tu sais, il y en a beaucoup. On se fait souvent poser la question, puis c'est un peu pour ça que je trouvais ça intéressant de te recevoir aujourd'hui. On se fait poser la question par un paquet de gens qui voudraient faire ce métier-là. « Hey, c'est cool, t'es allé essayer telle auto en Europe. Waouh, moi aussi, je veux faire ça comme métier. »
Mais c'est pas juste ça.
C'est pas parce que tu tripes sur des... C'est pas parce que tu tripes sur une Mustang Shelby, puis parce que tu vas au drag le vendredi soir, puis parce que tu vois des belles belles photos qu'on partage des fois sur les réseaux sociaux, que le métier, ça se résume qu'à ça.
Il y a quelques heures passées dans le bureau aussi.
Oui, un peu. Puis il y a beaucoup d'instabilité au niveau des heures. Puis il faut que tu sois multitâche.
Ouais.
Aujourd'hui, plus que jamais. Puis non, c'est pas que des voitures sport d'exception qu'on conduit. Là. Et de moins en moins, je te dirais. Aussi drôle que ça puisse paraître, aujourd'hui, moi, j'ai peut-être, je ne veux pas dire un peu moins de fun, mais il y a beaucoup moins de diversité en automobile aujourd'hui.
C'est énormément de VUS et de véhicules qui se ressemblent.
Puis je trouve
énormément.
Que le luxe est ben trop facilement accessible.
Par la location.
Écoute, moi, là, au début des années 2000, quand j'ai commencé, conduire une BMW, c'était quelque chose. Aujourd'hui, regarde, t'as 18 ans, puis t'as eu accès à des voitures BMW, puis tu commences dans le métier. Combien d'années ça a pris avant que je mette la main là-dessus? Puis les premières voitures que je conduisais, là, c'était des Suzuki, des Hyundai, des Daewoo, parce que personne d'autre voulait les conduire, puis tu commençais comme ça. Puis il y en avait, de ces voitures-là, des petites voitures compactes, accessibles. Puis, tu sais, je me souviens de la fois où on m'a livré une... Parce que c'est à peu près la première voiture qu'on m'a livrée chez moi, c'était une Suzuki Verona.
Wow.
Tu sais, aujourd'hui, tu racontes ça, puis c'est drôle.
Ben moi, je sais même pas c'est quoi.
Ben, c'est ça. Alors, c'est une Chevrolet Epica qui était en fait une Daewoo Magnus, qui était la successeur de la Daewoo Leganza qui a été vendue. Là, je viens de te perdre complètement.
Ouais. C'était une berline, on ne peut plus générique.
Ah oui, absolument. Absolument.
Du format peut-être d'une Malibu, hein, on peut la comparer, qui avait une mécanique...
C'est un 6-cylindres en ligne,
donc pas un V6.
Non, c'est
en ligne.
Ça. C'est une voiture très... dans le jargon, on appelle ça une voiture bâtard. Puis on ne l'a pas gardée longtemps, puis bref. Ça n'a pas été des autos très fiables non plus, mais bref, c'est des trucs que j'ai pu conduire, qui était très, très curieux, tu sais. Une PT Cruiser décapotable, elle allait chercher ça, le turquoise, c'est assez spécial. Bref.
C'est rare de voir maintenant des véhicules qui n'appartiennent pas à un segment clairement défini.
Ben, tu sais, il y a une variation sur un même thème dans les VUS, là,
tu sais. Oui, mais ils appartiennent tous à une catégorie où il y a 5, ça. 6, 7, 8, 10 joueurs. Mais d'avoir des véhicules un peu uniques,
ben,
comme un PT Cruiser cabriolet, c'est un peu spécial. Là.
Écoute, on était excités cette année de voir l'arrivée d'un nouveau segment, qui est celui du Ford Maverick puis du Hyundai Santa Cruz. Et puis j'ai l'impression que ce segment-là va grossir un peu aussi.
Oui.
Mais c'est un nouveau segment qu'on voyait débarquer. On voit pas ça. Ce qu'on conduit, là, c'est des VUS, des berlines.
De moins en moins
de l'électrique, puis...
Des pick-up.
Ouais. Aujourd'hui, c'est pas mal ça. Puis des beaux, oui, des sportives d'exception, etc. Mais des voitures accessibles, traditionnelles, et qui plus est à boîte manuelle, t'en as plus.
Il y en a de moins en moins.
Le métier a changé énormément parce que l'offre a changé, parce que la façon, puis parce que l'accessibilité au véhicule a changé. Aujourd'hui, là, tu peux te financer une voiture de luxe en deuxième chance au crédit, puis il n'y en a pas de problème. Puis, je veux dire, tout le monde a accès.
Les marques de luxe ont nivelé vers le bas aussi. Là. Tu sais, quand on regarde un BMW X1, qu'est-ce qu'il y a de luxueux ou de prestigieux là-dedans, à part le logo? Pas grand-chose.
Ben, c'est ça.
Ou Mercedes avec le gamme A. Tu sais, c'était pour avoir un marché qui va être plus accessible au niveau des gens, finalement.
Ben, en fait, les premiers qui ont joué cette carte-là, puis ça s'est un peu tourné contre eux, c'est Acura. Une EL, là, on s'entend, là. Bonjour le prestige.
On n'est pas loin d'une Civic.
Mais remarque bien qu'une Cadillac Cimarron dans les années 80,
on était pas
fallait avoir de l'imagination pour penser qu'on était dans un véhicule de luxe, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que le métier a changé parce que l'accessibilité, ça a énormément évolué, puis j'avais peut-être un peu plus de plaisir de par la diversité de ce qu'on proposait à une certaine époque. Puis aujourd'hui, bon, il y a évidemment toutes les contraintes. C'est-à-dire que je suis pas du genre à peser mes mots, là, mais j'arrive, bon, évidemment, j'en parlais juste un peu plus tôt, j'arrive du lancement du Jeep Grand Wagoneer.
Ouais.
Et évidemment, j'étais dans le Montana. Tu es dans le Montana, je m'excuse, là, mais là-bas, il y a quoi sur la route? Des pick-up, des Suburban, des Expéditions.
Du gros V8.
Mon collègue Derek, que je salue, avec qui j'ai partagé la route cette journée-là, Je lui ai dit, en embarquant dans le camion ce matin-là, j'ai dit, si jamais on croise une Honda Insight aujourd'hui, je te donne 100$.
Et tu as conservé les 100$ dans tes poches?
J'ai conservé les 100$. Puis j'ai pas demandé de m'en donner une si on n'en verrait pas, parce que c'était évident qu'il était désavantagé. En fait, je n'ai vu aucune voiture électrique, quand tu dis aucune, pas même une Tesla, rien, dans toute ma journée. Il y a à 80%, c'est du VUS pleine grandeur puis du pick-up.
Est-ce que tu as vu une Pontiac Montana au moins?
Le pire, c'est qu'à un certain moment donné, on y a pensé.
D'accord.
Et quand on a commencé à parler de « Hey, il faudrait bien croiser une Montana », ben c'est un Aztèque qu'on a croisé.
Ah, okay.
Tu vois? non, mais sans blague, c'est autre environnement, autre mœurs. Puis ce que je me suis dit là-bas, c'est si on était au Québec, le discours qu'on m'a servi ce matin-là pour nous vendre le Grand Wagoneer tiendrait pas la route.
Ben non. Ben
parce
non.
Que, écoute...
C'est un marché qui n'a rien à voir.
Ça, c'est ça. Puis on était deux journalistes du Canada seulement.
Mm-hmm.
On y avait une quarantaine de journalistes américains six journalistes du Mexique.
C'est clair que le marché n'est pas au Canada.
Ben non, on le sait. Puis ouais, ils vont en vendre en Alberta, puis etc. Oui, mais tu sais, puis ces véhicules-là, ils vont trouver preneur ici au Québec aussi un peu. Mais c'est drôle, mais pour un gars comme moi, aujourd'hui, au Québec, qui parle du marché de l'automobile actuel, c'est presque mal vu d'aller faire une chronique sur un Jeep Grand Wagoneer de 500 chevaux qui coûte 135 000 $.
Effectivement. On est presque dans le tabou, là.
On est carrément dans le tabou. On n'est pas presque, parce que je te garantis que le jour où mon article va sortir, c'est-à-dire dans quelques jours, il va y avoir des gens pour critiquer le fait que j'ai parlé d'un véhicule polluant.
Ben, ouais, exactement.
C'est sûr.
Puis on le voit aussi dans les chroniques du Guide de l'auto. Souvent, dans les commentaires, ça revient. Pourquoi vous ne faites pas plus d'électrique? Mais le marché, il y en a encore de la demande pour les véhicules essence, veut pas.
Oui, mais il y a ceux qui ne jurent que par l'électrique. Ouais. Il y a ceux qui comprennent quel est le marché. Il y a des gens qui sont anti-électriques aussi. Puis ce que j'aime pas dans ce milieu-là, c'est qu'il y a une ligne qui se divise. Il y a vraiment une ligne, tu sais. C'est vraiment, tu sais, comme au début des années 80, tu avais les séparatistes puis tu avais les nationalistes. C'est presque ça qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Tu as les gens qui sont pour la voiture électrique puis les gens qui sont contre, et il y a une bataille entre les deux.
Et on peut très bien être pour le véhicule électrique sans vouloir en acheter un pour soi-même, là.
Mm-hmm. Puis on peut être pour le véhicule électrique en conduisant un véhicule à essence, puis on peut comprendre, tu sais, je veux dire... On peut comprendre que les deux peuvent cohabiter.
Tout le monde sur les réseaux sociaux aussi.
Il y a cet aspect-là qui est venu s'ajouter récemment. Bon, je te dirais que depuis la crise de l'automobile, tu as vu tranquillement les mœurs changer un peu. Là. 2008-2009, là, après la faillite de Chrysler puis de GM, ça a changé un petit peu, mais là, c'est pire que pire. Là. C'est vraiment fascinant. On va revenir à toi parce que, évidemment, là, tu es à une étape où tu...
Je me questionne.
Tu lances des flèches à gauche, à droite, puis OK, quelle direction je vais prendre, là, tu sais. Tu penses à quoi comme futur dans le métier quand tu regardes tout ce qui se passe en ce moment? D'abord, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te tente le plus? Puis vers quoi tu as envie de te diriger?
Qu'est-ce qui m'attire le plus? Bien, clairement que c'est... T'sais, je vous vois, veux pas travailler. Fait que c'est sûr que votre métier...
Là, tu vois le studio dans lequel on enregistre, puis tu fais finalement, peut-être pas.
ce demi-garde-robe!
Ouais, c'est ça!
Mais clairement que ce métier-là m'intéresse. Donc, c'est sûr que j'essaie de plus en plus de faire en tout ce qui est en mon pouvoir pour être capable de me rapprocher. T'sais, comme là, c'est déjà un bon avancé. J'étais avec vous en studio, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi.
C'est tangible, c'est concret. Tu vois les micros, tu vois la console.
J'étais avec vous autres aussi.
Ah, ça, écoute.
Ça nous fait bien
je
plaisir.
Je me pince chaque jour, moi. Non. Ah non, je comprends. Je comprends parce que j'ai cheminé de la même façon. Moi, j'étais Jacques Duval à l'époque, puis il demeurait pas loin de chez moi, puis j'allais cogner chez lui. Je l'ai raconté à quelques reprises, cette histoire-là. Mais fait que je comprends un peu le phénomène, sauf qu'aujourd'hui, ça a tellement changé. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que moi, à une certaine époque, je rêvais... Je te dirais même que... Le jour où j'ai commencé à faire de la télé avec Pierre Michaud, je détestais ça. Je n'aimais pas ça, vraiment pas. Moi, j'étais à l'aise dans l'écriture.
Parce que c'était nouveau, puis tu en avais jamais
fait. Parce que c'est pas ce que je cherchais, pas du tout. Mais le métier a tellement changé. La radio, c'est un médium que j'aime beaucoup, mais le métier a tellement changé qu'aujourd'hui, il faut que tu te démarques en étant multitask.
Puis la télévision a l'avantage de donner une certaine notoriété aussi.
Ah oui, mais attends, là, les réseaux sociaux aussi.
Oui, oui.
Tu sais, les chroniqueurs automobiles les plus connus en Amérique du Nord, c'est des gens qui sont pas à la télé.
Non.
Doug DeMuro n'est pas à la télé.
T'sais, il a une chaîne YouTube avec je sais pas combien de millions de personnes qui le suivent assidûment.
Ben, c'est ça. Tu sais, nos amis de chez Throttle House, par exemple, sont connus aux États-Unis presque plus qu'au Canada. Des gens qui ont publient une vidéo, puis c'est 6, 800 000, 1 million, 1,5. C'est incroyable, là, le
barème de gens.
Exactement, merci de je m'en ai dit, le reach. Mais c'est incroyable la quantité de personnes qui sont capables de rejoindre avec une plateforme comme ça, ce qui est impensable.
C'est pas le seul duo au Canada, il y a les Straight Pipes aussi.
Oui, exactement. Qui vont chercher de la clientèle américaine.
Oui.
Alors que.
Pour un Québécois francophone, c'est impensable. On est limité en quelque sorte géographiquement.
Non seulement on est limité, mais avec une plateforme comme YouTube, ce qui est particulier, c'est qu'on dirait que le Québec n'est pas encore rendu là. On est moins habitué à aller utiliser YouTube que la moyenne des Nord-Américains.
Ben, veux-tu qu'on se parle des balados aussi? La culture du podcast, il y a 3 ou 4 ans, dans le Canada anglais, était bien plus forte qu'elle ne l'était au Québec. Et là, tranquillement, bon, Cube Radio a lancé sa plateforme. Radio-Canada a suivi
audio.
Après avec audio.
Ouais.
Mais tranquillement, c'est une locomotive qui se met en marche, mais on est en retard par rapport au reste de l'Amérique.
Ben oui, puis regarde, si tu regardes ma plateforme YouTube, je te dirais qu'en moyenne, 35 % de ceux qui vont regarder des clips sur ma plateforme, c'est des gens qui viennent d'Europe.
Donc, est-ce que tu aurais intérêt à avoir un petit accent pointu?
non. Mais ce qui est paradoxal, par contre, c'est que les gens qui sont d'Europe, oui, particulièrement les Français, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des essais de Jeep Grand Wagoneer, de Cadillac Escalade, de Yukon Denali,
parce que c'est exotique pour eux.
Parce que c'est exotique pour eux. Alors qu'ici, au Québec, ce qui marche, c'est des essais d'Ioniq 5 puis de Tesla Model 3.
De Prius Prime.
Exactement. Fait que c'est drôle de...
Le contraste.
Le contraste est gigantesque et, ironiquement, en France, il se vend beaucoup plus en proportion de véhicules électriques et hybrides rechargeables que chez nous, parce que, bon, et partout en Europe, parce que, évidemment, ils ont des conditions puis des incitatifs, en fait, des règles qui sont beaucoup plus sévères que chez nous. Donc, c'est très drôle de voir tout ça aller. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut que tu sois multidiscipliné dans ta façon de faire le métier. Puis c'est un peu ce qui, moi, m'a permis de me démarquer. Je fais mes photos, je vais écrire mes textes, on fait de la radio, Germain et moi, on fait de la télé. Bon, évidemment, il y a le web qui prend beaucoup de place, les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je veux dire, j'essaie de m'adapter à ce qui se fait. Instagram, les règles changent à chaque semaine. Mm-hmm. Puis là, des fois, je regarde des stories Instagram, puis je fais « wow, il y a du travail là-dedans ». T'sais, moi, là, une fois que j'ai mis un tag ou deux, puis que j'ai de la misère à aller faire des dessins, puis faire jazzer ça, puis il y a un apprentissage constant à faire là-dedans. Mais c'est certain que s'il y a une direction qui est prise,
ça
peut pas fonctionner. On a le livre aussi. Le livre, c'est un média hyper traditionnel.
Qui fonctionne encore dans cette formule-là, mais...
Qui est une carte d'affaires, en fait.
Oui.
C'est carrément une carte d'affaires. Le guide de l'auto papier est une carte d'affaires pour Québécois, comme pour nous, journalistes. Alors,
Mais reportons-nous, je sais pas moi, au milieu des années 80, où il y a... c'était l'almanach de l'automobile, le guide de l'auto, des chroniques automobiles dans les grands quotidiens, ça c'est s'arrêtait ça. Là. Si tu voulais devenir journaliste automobile à ce moment-là... C'était complexe. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de créer ton propre site web, de créer ton propre média et de développer ça par toi-même? Tu vas bûcher, c'est sûr.
Vas bûcher parce que évidemment, il y a plus d'offres, donc il faut que tu te démarques, il faut que tu ailles chercher une crédibilité.
Mais ça demeure l'enjeu.
Mais il y a des possibilités. C'est pas un métier aussi inaccessible qu'à une certaine époque.
Parce qu'en 1985... Si tu voulais créer un livre, attends, là, t'es mieux de te lever de bonne heure, là.
Oui, mais en même temps, c'était un média qui était, était plus commun.
Oui.
Le livre a encore sa place
mais
aujourd'hui.
Si tu voulais créer un livre automobile qui allait être publié annuellement, fallait que t'aies les reins solides,
Absolument.
Fallait que t'as les reins très, très, très
solides. Il y a personne qui prenait des risques pour toi. Puis, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais la télé même, il y a eu quelques émissions de télé qui ont été faites dans les années 80-90 en automobile, mais c'était rare, tu sais, c'était pas... Puis la télé encore aujourd'hui, bon, évidemment, RPM est là depuis longtemps.
Presque 25 ans.
Mais c'est ça, mais je veux dire, il y en a eu des émissions de télé sur TVA, sur Radio-Canada aussi. Mm-hmm. Prenez le volant était revenu à une certaine époque, à la fin des années 90, avec Jacques Duval et Michel Barrette, si tu te souviens.
Mm-hmm.
Non, tu t'en souviens pas.
Non, mais je sais ce que c'est.
mais bref, c'est ça. Fait que les médias aujourd'hui, c'est très, très, très particulier. Puis je me souviens, moi, quand j'ai commencé, le web commençait. Et j'ai commencé sur le web.
Mais c'est juste une mode, ça, le web, ça va passer.
C'est exactement ce qu'on me disait.
Ben oui.
C'est exactement ce qu'on me disait, c'était pas sérieux. Tu fais pas de... Tu t'écris pas dans un journal, tu fais pas de la radio, tu fais pas de la télé, bah, ça nous intéresse pas.
Ouais.
C'était carrément ça.
On était visionnaires, hein?
Puis je me suis fait dire ça pendant 5, 6, 7 ans. Des compagnies comme Mazda, comme Chrysler, refusaient de nous prêter des véhicules parce qu'on était que sur le web, puis c'était pas sérieux. Puis aujourd'hui, le web, c'est un média traditionnel.
Ben oui.
Fait que c'est dire à quel point le métier a changé. T'sais, toi, t'as commencé comment, Germain?
Ben, en fait, tantôt quand je disais, si on veut écrire, il faut commencer par écrire.
Ouais.
Je suis assez vieux, entre guillemets, je dis ça pour Vincent, pour avoir connu les forums, donc...
Je te dis ça, Vincent, comme ça, mais c'est rare qu'il y ait cet avantage de pouvoir dire
j'ai
ça.
Jamais
fait que là, il en profite. Là.
Non, mais je suis assez vieux pour avoir connu les forums de discussion, donc
ouais.
Avant que Facebook prenne ce volet-là, j'étais très actif sur des forums automobiles. Puis j'ai vu tranquillement que l'intérêt pour la recherche, l'intérêt pour la rédaction, les voitures anciennes se développaient. Puis je trouvais que j'écrivais pas si mal. Puis on me l'avait fait remarquer à quelques reprises. Et notre ami Benoît Lavigne s'occupait d'une revue automobile pour un club automobile, imprimée en noir et blanc 4 fois par année. C'est tout juste si c'était pas broché en haut à gauche là. tu sais, c'était imprimé. Je sais pas, 200 ou 300 copies, et m'avait offert une page dans chaque parution. Puis, évidemment, c'était tout sauf rémunéré, et j'avais droit à une copie.
Ah,
c'était déjà pas si mal.
Que tu as conservé?
Que j'ai conservé très précieusement. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais jeune adolescent. Là, j'avais 15 ans, peut-être 16, pas plus que ça. Et en fait, ces parutions-là, on peut appeler ça des revues, là, m'ont servi finalement de portfolio à présenter à des gens du milieu ensuite. Et il s'est présenté une opportunité avec Autoblog Québec parce que le géant américain AOL voulait avoir du contenu automobile partout dans le monde. Mm-hmm. Et on avait Autoblog canadien-anglais, on avait Autoblog au Québec. Donc, du lancement jusqu'à la fermeture, j'y ai travaillé comme pigiste. J'étais en secondaire 5 quand j'ai commencé. Donc, mes amis travaillaient dans des camps de jour, travaillaient à l'épicerie. Puis moi, j'étais pigiste à la maison à faire des galeries photos, des petits textes, des traductions, ce genre de choses. Et ça a duré presque 2 ans. Puis forcément, tu rencontres des gens. Et de fil en aiguille, ça a évolué ensuite, tout simplement.
C'est ça. Fait que chacun a trouvé sa voie. Mmh. On parle...
J'avais continué l'école à travers ça. J'ai continué le cégep en étant pigiste, en étant beaucoup plus motivé pour être journaliste que pour être étudiant. Je vous le cacherai pas. Puis après ça...
Le cours de philo moyen.
Les cours
de philo, oui.
Parce qu'il y en a qui sont revenus plus qu'une fois.
Ah. Bon, moi, j'ai pas eu ce courage-là.
Et après ça, j'ai tenté l'université en administration à l'École des sciences de la gestion. J'ai suivi quelques cours là pendant un an et demi, puis j'ai pris la décision de consacrer tout mon temps au journalisme automobile. C'était un sacrifice parce que tu ressens de là sans fameux papier entre les mains, puis tu te dis qu'est-ce qui arrivera ensuite, mais en même temps, c'était une opportunité intéressante de devenir journaliste automobile à temps plein à quoi 20 ans, 21 ans. Donc j'ai pris cette opportunité-là et j'y suis toujours.
Ah, c'est ça. Fait que tu sais, puis je regarde un gars comme Nicolas Tardif.
Oui.
Moi, je me souviens de la première fois qu'il s'est présenté à moi, il avait 13 ans dans un salon de l'auto et il m'a remis un texte imprimé qu'il avait écrit concernant la Pontiac Sunfire de sa mère.
Mm-hmm.
Et je l'ai encore, ce texte-là, à la maison, mais j'avais trouvé ça super sympathique. Puis, il n'aimait pas la Sunfire de sa mère.
Non.
mais aujourd'hui, Nicolas travaille avec nous dans le guide de l'auto. Il s'est occupé des fiches techniques. Il fait des matchs comparatifs avec nous. Puis, éventuellement, tu sais, il va gravir les échelons, là, si on peut s'exprimer ainsi. Mais, évidemment, le métier est difficile parce qu'il y a... Il y a un scindage des médias qui se fait. On a vu plusieurs de nos collègues disparaître ou devoir se réinventer parce que le média n'était pas là, qu'ils ne trouvaient pas d'espace non plus. Fait que c'est un métier quand même risqué aussi.
Du côté canadien-anglais, les trois dernières années, en fait, ont été très difficiles. Ouais. Je pense qu'au Québec, somme toute, on s'en est bien sortis parce que... Le coup de masse de la COVID a été moins difficile, je pense, du côté québécois pour les journalistes automobiles.
Bien, le Québec n'a pas de compétition, alors que le Canada anglais compétitionne avec les États-Unis.
Oui.
Et évidemment, bien, bon, il y a des grands quotidiens qui ont fermé à Toronto. Il y a des cahiers automobiles dans les grands journaux qui ont été carrément éliminés du côté du Canada anglais.
Tiens, on peut penser à Motoring, qui n'aura pas de relève jusqu'à preuve.
Semble-t-il que Brad revient pour une autre saison. Okay, mais Motoring, ça fait 30 quelques années que ça existe.
Oui, oui, oui. Bon. Mais en même temps, quel avenir attend cette émission automobile-là? Notre doyen du côté canadien-anglais, Jim Kenzie, a pris sa retraite.
Sa retraite, oui.
Est-ce qu'il a pris sa retraite ou le temps l'a poussé aussi. Bref, il y a eu quelques départs là,
absolument.
Du côté anglais. Là.
Absolument. Alors, ça va être bien intéressant de voir comment va évoluer le métier. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Si, il y a 10 ans, tu m'avais dit qu'aujourd'hui, je couvrirais aussi large dans le spectre de ce qu'on a à faire dans une semaine... j'aurais été étourdi. Bon, d'ailleurs, je le suis un peu, mais parce que ça fait beaucoup de diversité. Mais tu sais, si tu m'avais dit qu'on ferait une émission live sur Facebook en direct dans une voiture station wagon des années 70, il y a une dizaine d'années, je t'aurais dit non.
D'accord. Mais qu'on ferait aussi de la radio, une chronique imprimée dans le Journal de Montréal, le livre de la télévision plus traditionnelle, du web en masse au travers de tout ça. Ça fait des semaines bien chargées, là.
Chose certaine, ça prend quand même quelques éléments pour faire ce métier-là. Oui. C'est pas parce que tu es un passionné de certaines automobiles que tu peux le faire. Il faut que tu sois passionné de véhicules à la base, puis tu aies un background avant d'arriver.
C'est un point excellent que tu amènes parce que on peut faire le parallèle avec le hockey. Beaucoup de gens aiment le hockey, beaucoup de gens sont passionnés de hockey, mais c'est pas juste avec ça que tu vas remplacer Pierre Aude, là.
Non, c'est sûr.
Et la réalité est la même dans l'automobile. C'est pas parce que tout tes passe-temps passent par l'automobile que tu peux devenir chroniqueur automobile, forcément.
Puis, je veux dire, il y a différentes façons de faire le métier aussi. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'industrie. Je m'intéresse moins au sport automobile.
Oui.
Chacun ses éléments, c'est correct. Mais, tu sais, je ne suis pas un connaisseur de Formule 1, par exemple, pas du tout.
Mais notre collègue Philippe Brasseur en fait sa spécialité avec son magazine imprimé, d'ailleurs.
Ben oui, puis je veux dire, Bertrand Godin, bon, évidemment, c'est un pilote, là, mais Bertrand, on le contacte souvent pour des trucs comme ça. Philippe Lagu va parler de sport automobile. Il y en a plusieurs comme ça, mais en ce qui me concerne, ben l'industrie me parle beaucoup, le marketing, la mise en marché, la planification. création de produits, les décisions qui sont prises à l'intérieur des constructeurs, la gestion des concessionnaires, c'est quelque chose que je suis de près, qui m'a toujours fasciné. Fait qu'au-delà de la voiture, au-delà de la tôle qu'on met dans le chemin, il y a tout un monde aussi qu'il faut que tu puisses apprécier. Il y en a que c'est moins ça, il y en a que ça va être d'autres choses, puis c'est correct. Il y en a qui vont se consacrer, on le voit là, il y en a qui se consacrent qu'à la voiture électrique.
Oui. Ça devient une niche suffisamment.
Ça devient une niche, puis je pense que les salons automobiles l'ont bien compris d'ailleurs aussi. Mm-hmm. Tu sais, on le voit, mais ça peut pas être juste « Ah, moi, là, je trippe sur les Mustangs, fait que je vais être chroniqueur automobile. » Ça, ça marche pas. Alors, premièrement, il faut que tu sois passionné d'automobile dans un spectre très large. Deuxièmement, il faut que tu te débrouilles en français, c'est un minimum. Que tu sois bon communicateur. Puis ça, ben, je veux dire, tu l'as ou tu l'as pas, ça peut s'apprendre, mais tu sais, la passion d'automobile, ça s'apprend pas, ça se vit.
Et je pense qu'il faut dépasser la passion parce qu'il faut avoir aussi ce regard critique.
Être capable de prendre du recul.
Prendre du recul et de ne pas juste avoir ton cœur qui bat vite en regardant une voiture et d'être un peu aveugle. Il faut être capable de ressortir ce qui ne va pas.
Ouais.
Donc, exactement. Il ne faut pas être juste un fanatique de l'automobile.
Absolument. Alors, Vincent... on va passer quelques temps ensemble aujourd'hui, demain. Tu vas. Bon, là, évidemment, Vincent, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il est arrivé ici en Audi SQ5, puis que moi, mon véhicule d'essai de la semaine, c'est une Nissan Sentra de base à boîte manuelle.
Fait que
si tu avais l'impression que tu allais upgrader aujourd'hui en essayant une voiture plus exotique, désolé de te décevoir, c'est pas ce qui va arriver. Mais bref, on va s'amuser. Puis il y a quelques jours, tu as aussi participé à notre rendez-vous hebdomadaire dans la Grosse Brune. Alors, c'est une autre facette du métier. Bienvenue dans ce merveilleux monde de façon officielle. Et puis, on invite les gens à les suivre onrouleaulac.com.
Exactement, ou sur mon Facebook. Puis, juste avant de conclure, j'aimerais remercier énormément Antoine puis Germain de m'avoir invité ici. Là. Pour vrai, c'est dans le summum. Là. C'est merveilleux.
T'as-tu mis de l'argent dans le parcomètre? Parce que je te dis, ici, ils font pas de cadeaux.
Je suis dans le
Merci Vincent.
Merci beaucoup.